le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous parlerons du Togo où une proposition de révision constitutionnelle est examinée ces jours-ci par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Principal changement, le président de la République ne serait plus élu au suffrage direct, mais par l'Assemblée nationale. Le texte propose également d'allonger la durée de son mandat en passant du quinquennat au septennat, renouvelable une seule fois. En tout cas, l'opposition dénonce un braquage constitutionnel. Elle voit dans cette initiative un moyen de permettre au président Fornia Simbé de remettre les compteurs à zéro pour se maintenir au pouvoir jusqu'en 2038. Alors que vous inspire cette proposition de loi ? Votre pays, le Togo, va-t-il réviser la constitution ? On en parle, on en débat ce matin sur RFI, 33 9 693 693 70 et vos commentaires évidemment comme tous les matins sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et on va revenir sur la réélection de Vladimir Poutine. Bonjour Laurent.
Bonjour Juan, bonjour la Radio du Monde et bonjour à tous les auditeurs du Part du Monde.
Et on salue tous ceux qui nous écoutent comme vous en ce moment à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous vous écoutons Laurent.
Merci Juan. Le président russe Vladimir Poutine a été réélu avec un score élevé de 87% des suffrages. J'ai une préoccupation. Que va changer ce nouveau mandat dans la conduite de la guerre en Ukraine ?
Après le sacre de Vladimir Poutine, faut-il s'attendre à des changements sur le front ukrainien ? Bonjour Anissa El-Jabri.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Moscou. Quelles peuvent être les conséquences de la réélection de Vladimir Poutine sur le conflit en Ukraine ?
Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête un petit peu sur ce score, parce que ce score que vous mentionnez, il a été qualifié d'exceptionnel par le Kremlin, dénoncé comme sans lien avec la réalité par l'opposition en exil et mis en doute par les Occidentaux. Mais il reste pour Vladimir Poutine avant tout un moyen d'afficher sa force à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors j'étais lundi soir sur la Place Rouge au concert de célébration des 10 ans d'annexion de la Crimée, qui était aussi un moment important de cette fin de séquence présidentielle. Et j'avais sous les yeux cette image qui était un peu un triptyque. Je ne sais pas si tous vous l'avez vu ou si vous l'avez encore en tête. Il y avait les murs du Kremlin, sur grand écran, le visage de Vladimir Poutine et puis ce mot « Russie » qui s'affichait en lettres capitales. Donc c'est un message clair et qui était d'ailleurs à la une de la presse légitimiste hier. La Russie, c'est Poutine et Poutine, c'est la Russie. C'était d'ailleurs les premiers mots de l'éditorial du très légitimiste quotidien Moskovski Komsomolets. C'était « La Russie, c'est moi ». Les élections de 2024 ont donné à Vladimir Poutine le droit moral et politique de dire cela. 87%, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire moderne de la Russie.
Donc Vladimir Poutine juge avoir les mains libres.
Ben voilà, exactement, ce score pour lui, c'est en fait une validation de son choix d'envoyer ses soldats en Ukraine et une validation de ses choix militaires à venir. Comme chef de guerre, Vladimir Poutine, il a notamment fixé ce buste. Il en a parlé un tout petit peu dans les derniers jours des opérations électorales. Il en a reparlé après la proclamation du score. Son premier but, c'est, dit-il, créer une zone tampon pour Belgorod et sa région. Les bombardements singulièrement forts juste avant, pendant les opérations électorales et puis juste après, parce qu'il y a encore eu 5 morts annoncés hier, et bien ces bombardements ukrainiens l'ont rendu furieux. Donc la région qui est en face, celle de Kharkiv, c'est désormais pour lui un objectif prioritaire et affiché. Et puis l'autre, on le connaissait déjà, mais il n'a pas renoncé. L'autre, c'est le renforcement de l'emprise russe sur les territoires ukrainien qu'il a annexé en 2022. Ces territoires, vous le savez, pour l'Ukraine, il est hors de question de renoncer à en retrouver la souveraineté. Eh bien, par exemple, ce lundi soir, à nouveau, sur la Place Rouge, c'est très symbolique, Vladimir Poutine a bien redit qu'il ne renoncerait pas. Il a notamment mis en avant cet ouvrage, l'achèvement d'une ligne de chemin de fer entre Rostov, territoire russe, Berdiansk, territoire occupé sur les rives de la mer d'Azov. Bref, vous l'avez compris, cette guerre ne va pas s'arrêter.
Et pour ça, Vladimir Poutine veut se donner les moyens.
En tout cas, une nouvelle vague de mobilisation, ça semble exclu pour l'instant, hein, parce que le pouvoir sait à quel point il est impopulaire. Et vous savez, même avec ce score, même dans une Russie extrêmement verrouillée, eh bien, les autorités font très attention à l'humeur du pays sur des choses importantes comme ça. Enfin oui, et ça fait déjà des mécontents, il y aura une augmentation des impôts. Ce qui a été présenté ces dernières semaines, c'est une augmentation qui officiellement serait pas injuste. En Russie, les impôts, c'est 13% pour tout le monde, même les plus pauvres. Là, il s'agirait de passer à 15%, mais seulement sur les revenus les plus élevés. Il y a quand même d'autres mesures qui, semble-t-il, pourraient rogner le pouvoir d'achat d'un peu tout le monde. Les détails concrets ne sont pas encore arbitrés. Ça fera des mécontents de toute façon. Je vous rappelle que la Russie avait annoncé pour 2024 une augmentation sans précédent de son budget militaire. Alors, est-ce que cet argent va servir à ça? Mais on était en 2024 à plus 70%. Et là aussi, c'est une trajectoire qui va sans doute se confirmer.
Voilà, Vladimir Poutine qui va donc demander à la population russe de faire des efforts pour financer la poursuite de la guerre en Ukraine. Laurent, a-t-on répondu à vos questions?
Oui. Madame a répondu au-delà même de mes attentes.
Ah bah
merci,
tant mieux.
Vraiment, merci Juan, merci à Anissa Jabri.
Anissa El Jabri, correspondante permanente de RFI à Moscou. Bonne journée à tous les deux. D'ailleurs, les explications d'Anissa sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. On repasse au standard et on reste en République démocratique du Congo. Bonjour Messi Fidèle.
Bonjour Juan, comprenez que la RDC vous suit toujours.
Ah bah je sens bien et j'entends bien tous les matins la fidélité de nos auditeurs en RDC. Vous nous appelez de Lubumbashi, nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Exactement Juan. En fait, un rapport sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale a été présenté au gouvernement français. À ce propos Juan, je voudrais savoir de quelles pratiques parle-t-on et concerne-t-elles des pays africains?
Oui, un rapport pour identifier les pratiques illicites qui ont eu lieu par le passé et éviter qu'elles ne se reproduisent. Bonjour Kaoru Magasa.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. L'adoption internationale s'est accompagnée d'importantes dérives. Voilà ce qui ressort de ce rapport. De quelles pratiques illicites parle-t-on ?
Alors les pratiques illicites, Juan, dans l'adoption internationale vont du simple délit à des crimes très graves comme le trafic d'enfants, le changement de nom, de lieu ou de date de naissance sur des documents d'identité ou toute autre fausse déclaration dans les dossiers d'adoption sont considérés comme des pratiques illicites. L'absence de consentement éclairé des parents biologiques est également une atteinte importante, tout comme la corruption d'agents judiciaires ou d'état civil. Concernant les crimes, nous pouvons citer les enlèvements, la vente ou l'achat d'enfants. Selon les experts des Nations Unies sur les droits de l'homme, certaines de ces pratiques pourraient relever de crimes contre l'humanité.
Alors, je précise que cela fait maintenant 6 ans, Kaoru Magasa, que vous travaillez sur la question de l'adoption, principalement entre la France et le Mali. Quelles sont les dérives que vous avez pu constater?
Alors, durant l'enquête que j'ai réalisée, j'ai rencontré des personnes adoptées qui n'auraient pas dû l'être au regard de la loi malienne, qui interdit les adoptions plénières, c'est-à-dire avec filiation, lorsque l'un des deux parents biologiques, au moins, est encore vivant. J'ai aussi pu récolter les témoignages de familles biologiques dont les enfants ont été adoptés dans des familles françaises différentes, ce qui est interdit par la loi. Donc pour répondre à notre auditeur, les pratiques illicites dans l'adoption internationale concernent des personnes originaires d'Afrique. En France, on dénombre plus de 120 000 personnes qui ont été adoptées à travers le monde depuis les années 60. Parmi elles, environ 15 000 viennent d'Afrique, d'Éthiopie, de Madagascar et du Mali pour les plus nombreux. Il est important que je dise que toutes ces adoptions ne sont pas illégales, mais que de l'aveu des autorités françaises, il est impossible de quantifier le nombre d'adoptions entachées d'irrégularité. Plusieurs plaintes ont été déposées devant les juridictions françaises, dont les résultats permettront peut-être de faire la lumière sur les différents scandales à l'adoption.
Messi Fidèle, une dernière question.
Oui, Juan. En fait, qu'est préconise ce rapport pour endiguer ces abus?
Les abus, il faut quand même le préciser, Kaoru Magasa, remontent quand même à une trentaine d'années.
Oui, exactement. Elles ont été commis pour la plupart dans les années 70, 80 et 90, à une époque où de nombreuses personnes en mal d'enfants souhaitaient combler leur désir de parentalité en adoptant des enfants à tout prix. L'offre était plus importante que la demande, si je peux m'exprimer ainsi, et les moyens de contrôle peu nombreux. L'adoption internationale est aujourd'hui beaucoup mieux régulée qu'il y a 30 ans, vous l'avez dit. dit, les chiffres sont en baisse. En 2023, seuls 65 enfants venant d'Afrique ont été adoptés en France.
Oui, alors le rapport ne se contente pas de lister les pratiques illicites, il formule des recommandations, et je parle sous votre contrôle, Kaoru Magasa, il y a 28 recommandations, c'est ça ?
Oui, c'est ça, et les rapporteurs préconisent d'accompagner les personnes adoptées dans la recherche de leurs origines et de leur famille biologique, de mener une réflexion sur la question des tests ADN pour leur toujours interdit en France, mais qui permettrait de confirmer ou non une filiation. Il est aussi indiqué la nécessité de créer une commission indépendante pour mieux aider les personnes qui ont découvert des pratiques illicites dans leur adoption. Enfin, il est demandé à l'État de reconnaître formellement les pratiques illicites. Sarah El Haïry, la ministre déléguée chargée de l'enfance et de la famille, reconnaît, je cite, des manquements collectifs. Mais pour les potentielles victimes, cela ne va pas assez loin. Elle réclame toujours que les responsabilités soient établies et assumées. Durant des décennies, les autorités françaises ont été alertées des différents scandales sans que rien ne soit fait pour les endiguer, comme le démontre un rapport historique des chercheurs Yves Denecher et Fabio Macedo de l'Université d'Angers. Des excuses publiques ainsi que des réparations pour les victimes reconnues font aussi partie des revendications des associations d'adoptés.
Effectivement, et on l'a pu l'entendre à votre micro, Kaoru Magasa, au moment de la remise de ce rapport au gouvernement. Messi Fidèle, a-t-on répondu à vos questions ?
Très très bien, merci à Kaoru Magasa et à vous.
Et je précise que la suite de votre enquête, Kaoru Magasa, adoption au Mali, le passé retrouvé, est à retrouver très prochainement dans le magazine Collection Reportage de TV5 Monde. Donc je renvoie tous nos auditeurs à la chaîne TV5 Monde. À bientôt Kaoru.
À bientôt Juan.
Merci à vous, 9h21. Et quel bonheur, quel plaisir de retrouver Simon Rosé.
Bah, ça vous fait sourire,
mais c'est
partagé,
vrai, c'est spontané.
Ça fait plaisir.
Simon Rosé qui est devenu chef du service environnemental de RFI, mais Simon, vous êtes venu longtemps dans ce studio pour répondre à des questions sur l'espace, un dossier que vous maîtrisez.
J'aime bien parler de fusées avec vous.
Voilà.
Juan, donc, voilà.
Les auditeurs ont des questions sur les fusées. Bonjour Abel.
Bonjour Monsieur Juan.
Bienvenue. Vous êtes où êtes-vous ? Vous êtes au Togo. C'est bien ça, à Lomé, Abel. Oui. Et vous avez des questions sur la fusée Starship.
Effectivement, je suis à Lomé, capitale du Togo.
On vous écoute.
Et je voudrais... SpaceX a effectué le troisième vol test de sa méga fusée. À ce propos, j'ai deux préoccupations. La première, pourquoi SpaceX considère-t-il qu'il s'agit d'un échec réussi ? La fusée pourra-t-elle être prête pour le projet retour sur la Lune en 2026 ?
Alors, c'est vrai qu'Elon Musk, le patron de SpaceX, s'est fixé comme objectif de permettre à la NASA de retourner sur la Lune. Simon Rosé, effectivement, c'était le troisième décollage de la fusée Starship. Troisième essai et encore un échec. Et pourtant, et je comprends qu'Abel s'interroge, et pourtant SpaceX s'est félicité, je cite, de ce jour incroyable.
Et oui, parce que c'est allé plus loin que la précédente. C'est on l'a déjà dit à ce micro, hein, c'est la façon de développer des fusées de SpaceX. Ils vont construire un truc qui est un peu brinque-ballant le premier coup. Ça va exploser nécessairement, mais ils vont apprendre des choses. Donc ils vont faire une deuxième version un peu améliorée qui va aller plus loin, qui va exploser, mais ils vont apprendre plus de choses. Et là, au troisième coup, c'est allé encore plus loin. Ils ont vraiment fait pas mal de choses. C'était beaucoup plus propre que lors des deux fois précédentes. Ça s'est conclu encore une fois par un échec à la fin. Mais encore une fois, la masse d'informations qu'ils ont pu récolter leur permettra de s'améliorer pour le quatrième essai, qui devrait intervenir dans pas très longtemps, 6 semaines, disent les dirigeants de SpaceX. Ça dépend d'une autorisation délivrée par la FAA, donc l'autorité américaine de l'aviation. C'est elle qui donne les licences de vol. Mais ça devrait arriver plus vite qu'entre le troisième et le quatrième. Le deuxième et le troisième.
J'espère pour SpaceX et les projets d'Elon Musk, puisqu'il y a quand même cette échéance, ce calendrier, 2026, retour sur la Lune. Est-ce que SpaceX sera au point ?
Non. Ah bon, non, c'est clair. Parce que, en fait, la NASA a fait appel à SpaceX, a sous-traité une partie de la mission. Donc, c'est le programme Artemis qui consiste à remettre des astronautes américains et canadiens dans un premier temps sur le sol lunaire. C'est pas fait depuis 1972 et la dernière mission Apollo, c'était Apollo 17. SpaceX, dans cette architecture de mission, en fait, on va construire une station spatiale en orbite autour de la Lune qui s'appelle le Gateway. Le Starship, donc le vaisseau spatial développé par SpaceX, sera amarré au Gateway et servira d'ascenseur entre cette station et le sol lunaire pour poser les astronautes et y remontera ensuite. Ça veut dire déjà qu'on doit aller jusqu'à la Lune. Là, pour l'instant, il ne s'est pas encore mis en orbite, Starship, donc on n'y est pas. Pour ce faire, c'est-à-dire qu'il a du carburant pour le faire. C'est-à-dire qu'on doit une fois qu'on l'a mis en orbite, il sera vide. Donc, c'est-à-dire qu'on doit renvoyer des vaisseaux pour lui faire le plein en orbite. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait, donc il faut prouver ça. Et surtout, on doit mettre des astronautes à bord. Et des astronautes à bord, c'est pas juste rajouter quelques trucs. Il faut un contrôle atmosphère, il faut des contrôles de température, il faut des systèmes de sécurité. C'est pas quelque chose qui s'improvise. 2026, c'est demain dans ces, échéances-là. Elon Musk estimait au tout début du projet qu'il faudrait 100 vols de Starship avant de le qualifier pour le vol habité.
Là, non, on en est qu'à 3. Hein.
On en est qu'à 3. Bon, il n'y en aura certainement pas besoin de 100. Mais bon, il faudrait soit qu'ils accélèrent sérieusement la cadence, ou soit que tout marche du premier coup et on le voit. C'est pas dans la philosophie de SpaceX de tout tester avant et de s'assurer d'une réussite à 100% dès le premier vol. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça se trouve, espérons-le, ils me feront mentir, on sera plus sur du 2027-2028, mais 2026, c'est optimiste. À la base, c'était 2025.
Donc, effectivement, il a fallu repousser d'un an. Vous aurez l'occasion de revenir dans ce studio pour nous reparler des fusées. Abel, bonne journée à Lomé.
Merci beaucoup, à vous pareillement.
Et un grand merci à Simon Rosé, bien évidemment, chef du service environnement. Il nous reste 4 minutes, le temps de prendre une dernière question qui va permettre d'ailleurs de planter le décor pour le débat qui suivra le journal d'Afrique Matin dans quelques instants. On va parler du projet de révision constitutionnelle au Togo. Bonjour Sylvestre.
Oui, bonjour. Vous êtes... bonjour aux auditeurs.
Et merci de nous appeler de N'Djamena au Tchad. Vos questions, on vous écoute.
Oui, au Togo, une proposition de loi est actuellement examinée en commission des lois pour passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Mais pourquoi les députés de la majorité veulent-ils changer la nature du régime ?
Ah ouais, les députés de la majorité qui proposent que le président de la République ne soit plus élu au suffrage direct, mais par l'Assemblée nationale. Bonjour Paul Amegakpo, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Vous êtes le président de l'Institut Tamberna pour la gouvernance. Comment les députés justifient-ils la nécessité de passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire ?
Les députés de la majorité parlementaire, de la majorité au pouvoir unir, ont jugé nécessaire passer du régime présidentiel ou semi-présidentiel que le Togo a connu depuis son indépendance à un régime parlementaire. Ceci, selon eux, en raison de l'inefficacité du système présidentiel qui octroie une prépondérance du pouvoir exécutif au président de la République, qui lui-même n'est pas responsable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. L'exécutif togolais est partagé entre le président de la République, qui est le chef de l'État, et un premier ministre qui dirige l'action gouvernementale. Et donc c'est le premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale et non directement le président de la République qui incarne l'exécutif togolais.
Et là, il n'y aurait plus, il n'y aurait plus de premier ministre, visiblement, d'après le projet.
Il n'y aura plus de premier ministre, il y aura plutôt un président de conseil de ministres. Disons que l'exécutif togolais aura une physionomie de diarchie. On aura un président de conseil de ministres qui sera élu par l'Assemblée nationale et un président de la République qui sera élu par le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Et les deux seront désormais responsables vis-à-vis du Parlement. Parce que le président de la République pourrait être destitué par une haute cour constituée justement des députés de l'Assemblée nationale. Et le président du Conseil de ministres pourrait être également destitué par l'Assemblée nationale.
En quelques mots, Paul Amegakpo, il nous reste à peine une minute. Nombreux sont les auditeurs qui s'interrogent et qui nous demandent sur les réseaux sociaux, est-ce que cette constitution peut être modifiée par des députés qui ne seront certainement plus sur les bancs de l'Assemblée nationale dans un mois, puisqu'il y aura les élections législatives ?
Il y a deux obstacles juridiques majeurs. Le premier obstacle, c'est que l'article 144 de notre Constitution interdit toute révision de la Constitution en période d'intérim. Or, actuellement, deux des trois pouvoirs sont en intérim. le pouvoir législatif est en intérim depuis le 1er janvier parce que le mandat des députés était caduc au 31 décembre 2023.
Et le deuxième point.
Et la Cour constitutionnelle également n'est pas complète actuellement. Et donc, il y a beaucoup de fonctions au sein de la Cour constitutionnelle qui sont assumées de manière intérimaire.
Eh bien, vous savez quoi, on prolongera la discussion évidemment avec les auditeurs. Ils sont nombreux à nous appeler du Togo pour commenter ce projet de révision constitutionnelle. Merci infiniment, Paul Amé Gakpo, d'avoir été avec nous.